5h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. L'actualité africaine sur RFI. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, le cyclone Dikeledi qui se rapproche à nouveau de Madagascar.
Les services météo alertent pour aujourd'hui, mais il ne devrait pas frapper les terres à première vue. Il devrait en revanche provoquer de fortes pluies dans le sud du pays, à en croire les prévisions. Les enlèvements qui se multiplient à Nairobi, des opposants, des militants étrangers. La capitale kényane devient-elle la capitale du kidnapping? On se posera la question dans ce journal. Les violences imputées aux rebelles ADF dans l'est de la RDC, elles ont fait au moins 3 morts encore ce week-end dans une attaque contre des cultivateurs au nord Kivu. Une alerte sanitaire en Centrafrique, le gouvernement signale une épidémie de fièvre de la vallée du Rift. Le nouvel an berbère également, dans ce journal, il fête en ce moment l'année 2975 selon leur calendrier. Et aujourd'hui, c'est un jour férié, une fête nationale même au Maroc. Les souvenirs de la révolution tunisienne également au programme, 14 ans après la chute de Ben Ali. On donnera la parole aux habitants de Tunis pour notre reportage du jour. Et puis l'actu sport également au menu, comme tous les jours. Soyez les bienvenus. Il a déjà fait au moins 3 morts ce week-end lors d'un premier passage sur la pointe nord de Madagascar. Rétrogradé un temps en tempête tropicale, notamment par les services de Météo France, lorsqu'il approchait des côtes de Mayotte où il a provoqué des inondations. Le cyclone tropical Dikeledi gagne à nouveau en intensité et il poursuit sa route le long du canal du Mozambique, menaçant ainsi désormais aujourd'hui le littoral sud de Madagascar. Il ne devrait pas toucher les terres, je vous le disais, il devrait rester normalement au large, mais il pourrait provoquer de fortes pluies. Les autorités malgaches appellent donc à la vigilance. Pourtant, sur place, dans les régions concernées, beaucoup y voient un phénomène bénéfique. Explication ? Pauline Le Troquier.
Dans quelques heures, Dikeledi aura atteint sa puissance maximale en devenant un cyclone tropical intense. Même s'il restera en mer, loin des zones habitées, des vagues de 5 à 6 mètres de haut sont toutefois attendues, comme des rafales de 150 km/h dans les terres. La Timouan Djefan et l'Anjou, les deux régions concernées par l'arrivée de la perturbation, sont aussi les plus sèches du pays. Sur place, les champs de manioc ou encore de maïs laissés à l'abandon incarnent à eux seuls une saison agricole au point mort. Pour Marco Tsaradia, député du district d'Ampani Ouest au sud de Tuléar, le passage de Dikeledi près du littoral est une aubaine pour la région.
Il n'y a pas de crainte par rapport au cyclone en tant que tel. Il y a surtout beaucoup d'attentes. Tout le monde prie pour que le cyclone ramène de la pluie qui est tant attendue. Si jamais il n'y a pas de pluie entre cette période jusqu'en février, ça voudra dire qu'il y aura la famine pour toute l'année.
Des pluies espérées, malgré le risque de dégâts bien connu par la population, la grande île porte encore les traces du cyclone Batsirai, dont le passage dévastateur en 2022 avait fait 116 000 sinistrés. Bien que moins puissant, Dikeledi a déjà causé 3 décès et plus de 5200 sinistrés, selon le dernier bilan officiel. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Nairobi devient-elle la capitale du kidnapping politique? La capitale kényane a en tout cas été le théâtre ces derniers temps de plusieurs enlèvements d'opposants étrangers ou de voix dissidentes. Le dernier en date, celui dimanche, d'une militante tanzanienne, Maria Sarungi Tseai, qui vit en exil sur place depuis 4 ans. Elle a été libérée quelques heures plus tard grâce notamment à la mobilisation de plusieurs ONG. Et elle a raconté son histoire à la télévision kényane, Florence Maurice.
Maria Sarungi Tseai a été kidnappée par 3 hommes armés à bord d'une Toyota noire. Cela s'est passé en plein jour dans le quartier de Kilimani, dans le centre de Nairobi. Mais la militante soupçonne une opération des services de sécurité tanzaniens. Ils opéreraient, selon elle, au-delà de leurs frontières pour faire taire toute voix dissidente. Le Kenya aurait-il laissé faire ? Amnesty International et l'Association des juristes kényans réclament une enquête car le procédé rappelle d'autres cas, celui notamment de l'opposant ougandais Kizza Besigye, kidnappé dans un hôtel de Nairobi il y a 2 mois, puis transféré de force et en catimini en Ouganda où il est actuellement jugé par une cour martiale. À l'époque, Kampala a assuré avoir reçu de l'aide de la part du Kenya pour cette opération. Les avocats de l'opposant dénoncent une collusion. Nairobi réfute toute implication. Ce lundi, tout de même, le journal Citizen s'interroge. Le Kenya serait-il devenu, je cite, « la nouvelle capitale mondiale du kidnapping » peut-on lire dans son édition en ligne. En octobre dernier, selon Amnesty, 4 réfugiés turcs ont également été enlevés dans la capitale kényane avant d'être expulsés en dehors de toute procédure légale d'extradition.
Et notons, Florence Maurice, que les autorités kényanes et tanzaniennes n'avaient pas encore réagi hier soir. Ce nouveau kidnapping intervient en tout cas alors que les disparitions se multiplient au Kenya depuis la vague de manifestations qui les dénonçait en juin dernier. Dimanche, un ministre kényan, Justin Muturi, a d'ailleurs dénoncé une vague d'enlèvement de jeunes critiques du pouvoir. Il a révélé que son propre fils a été enlevé pendant plusieurs jours et puis libéré en juin dernier, sans explication. Et cela alors même qu'à l'époque, ce ministre était membre du Conseil national de sécurité en tant que procureur général. Nous l'évoquions hier matin sur notre antenne, la menace de l'organisation État islamique en Somalie. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre article sur Internet. Eh bien, l'armée somalienne se mobilise justement contre cette menace. Elle annonce avoir tué plusieurs combattants du groupe hier dans une opération dans la région du Puntland, une région où l'organisation État islamique est implantée depuis 2015, sous le commandement d'un certain Abdul Kadir Moumine. La violence persistante dans l'est de la RDC. Il y a la guerre que mènent l'armée congolaise et ses alliés locaux au groupe armé du M23, soutenu lui par le Rwanda. L'armée annonce d'ailleurs ici avoir repris plusieurs villages dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. Et il y a aussi dans cet est congolais, par ailleurs, les attaques imputées aux rebelles ADF. Ils ont pris pour cible, quant à eux, des cultivateurs ce week-end au nord Kivu, là aussi, à une trentaine de kilomètres de Beni, où le bilan de la société civile évoque au moins 3 morts, 8 autres personnes enlevées et une dizaine d'habitations incendiées. Les ADF, Alexandra Branjon, qui serait l'un des groupes les plus meurtriers dans la région, selon le dernier rapport des experts de l'ONU.
Les ADF sont responsables de la mort de plus de 650 civils depuis juin dernier en Ituri et au Nord Kivu, affirment les experts de l'ONU. Les opérations militaires conjointes entre l'armée congolaise et ougandaise ces derniers mois ont permis d'affaiblir le mouvement, détruisant des bastions du groupe, neutralisant des combattants ainsi que plusieurs de leurs commandants, ce qui a permis la libération de plusieurs centaines d'otages. Mais le résultat est mitigé, relèvent les experts. Plutôt que de réduire la menace sur les civils, ces opérations militaires ont dispersé les combattants ADF à l'intérieur du pays. La majorité des bases ADF sont aujourd'hui dans la province de l'Ituri, à la frontière avec le Nord Kivu. Et l'une des branches les plus actives s'est enfoncée dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Le groupe est devenu plus mobile et a intensifié ses attaques contre les civils en RDC. Le rapport fait également état de contacts entre les ADF et le mouvement rebelle du M23 qui se bat contre l'armée congolaise plus au sud. Des contacts en vue d'un possible pacte de non-agression permettant le passage de combattants du M23 soutenu par le Rwanda.
Alexandra Branjon, la RDC où la chaîne qatarienne Al Jazeera est suspendue pour 90 jours, annonce du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vendredi dernier, les accréditations des équipes de la chaîne avaient déjà été retirées par le ministère de la Communication. Les autorités congolaises reprochent à Al Jazeera la diffusion d'une interview de Bertrand Bissimwa, l'un des responsables du M23, justement. En Ouganda, la Cour martiale doit rendre aujourd'hui une décision sur sa compétence à juger l'opposant historique Kizza Besigye pour des infractions prétendument commises en dehors de l'Ouganda. En novembre, Kizza Besigye a été enlevé au Kenya, justement, on en parlait tout à l'heure, par des forces de sécurité, ramené de force en Ouganda selon son entourage. Et si la Cour conclut qu'elle a la compétence nécessaire, son procès pour possession illégale d'armes et trahison pourra se poursuivre. Mais ses avocats, eux, demandent l'arrêt des procédures. Ils dénoncent une cour martiale sous influence directe de l'exécutif. Une menace sanitaire en Centrafrique. Le ministère de la Santé signale une épidémie de fièvre de la vallée du Rift. Elle touche la ville de Ngaoundaye dans le nord-ouest du pays. Plus largement, selon les informations du département de la Santé, 5 cas ont déjà été recensés à l'échelle nationale depuis le 23 décembre, avec un décès enregistré. En réaction, le ministre de la Santé, le docteur Pierre Somcé, appelle la population à la vigilance.
Entre le 23 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, le district sanitaire de Ngaoundaye a notifié 5 cas suspects de fièvre hémorragique, dont un décès chez un homme de 73 ans. Des échantillons ont été prélevés et envoyés au laboratoire de référence de l'Institut Pasteur de Bangui, dont la première analyse, analysée le 31 décembre 2024, confirme la fièvre de la vallée du Rift, tandis que 4 autres échantillons sont en cours d'analyse. La fièvre de la vallée du Rift est une maladie qui touche à la fois l'homme et les animaux domestiques, tels que le bœuf, les ânes, les moutons et les chèvres. Elle est causée par un virus qui se transmet à l'homme par le contact direct ou indirect à travers le sang ou les organes d'animaux infectés lors de l'abattage, de la découpe, de l'aide à la mise à bas ou de l'élimination des carcasses d'une part et d'autre part par des piqûres de moustiques infectées. Chez l'homme, cette maladie se manifeste après une période d'incubation de 2 à 6 jours, par apparition soudaine de fièvre, de maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires.
Le docteur Pierre Somsé, le ministre centrafricain de la Santé, au micro de Rolf-Steve Domialeux. Allez, c'est le moment de souhaiter une bonne année à tous les Berbères du monde. Ils célèbrent en ce moment le nouvel an, mais de l'année 2975 selon leur calendrier. Et au Maroc, pour la deuxième année, ce mardi est même un jour férié, une fête nationale sur décision du roi Mohamed VI. Une avancée pour la reconnaissance des droits des Berbères, Mathias Reynal.
Un peu partout dans les rues de Casablanca, des petits garçons ou des petites filles en tenue traditionnelle amazigh, Yenayer, le nouvel an en berbère, a été fêté comme il se doit dans les écoles hier à la veille du jour férié. C'est une véritable avancée pour la militante amazigh, Fatima Daniel.
Ce combat long et complexe a porté fruit. Chose très importante, c'est la reconnaissance du nouvel an amazigh. L'enseignement de la langue amazigh a intégré nos écoles public. On voit le tifinagh d'alphabet amazigh dans les espaces publics, les enseignes publicitaires, les panneaux de signalisation, etc.
La constitution de 2011 consacre le caractère officiel de la langue amazigh, mais le tamazirt reste confronté à des défis.
On aimerait bien voir la généralisation de l'usage de la langue amazigh dans les administrations et les entreprises publiques. On veut encore l'augmentation du budget consacré à tamazirt, soit dans l'enseignement, dans la fonction publique, etc. Finalement, la mise en place des mesures visant à mettre fin à la folklorisation du patrimoine amazigh.
Une loi entrée en vigueur en 2021 fixe un processus de 15 ans pour la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazigh. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
RFI, 5h bientôt 42 minutes ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel.
Dans prochain quart d'heure, restez avec nous bien sûr, parce qu'on donnera la parole aux Tunisiens sur leur souvenir de la révolution qui a chassé Ben Ali du